raffermai.
Le culte du Nature Boy, la disparition d'Emma Philippoff, les fantômes de l'auberge Saint-Gabriel, le mystère de la boîte blanche, ce sont nos dossiers du jour dans le bureau des mystères. Bonsoir, bienvenue dans le bureau des mystères, je suis Mathias.
Et je suis Charles. Ce soir, nous avons décidé de vous faire traverser l'Atlantique pour un numéro spécial sur les histoires étranges du Canada. Et pour cela, nous avons fait appel à deux experts des histoires étranges de l'ère numérique. Hein. Et ces deux experts, ce sont Émile et Sébastien. Comment ça va les amis?
Bonsoir, ça va bien et vous?
Ah ouais, ça va très très bien, on est très heureux de vous avoir.
Certains d'entre vous connaissent sans doute déjà Émile et Sébastien grâce à leur excellente émission Distorsion. Mais pour celles et ceux qui ne les connaissent pas encore, je les laisse faire les présentations.
Oui, tout à fait, messieurs. En fait, Distorsion, c'est des histoires étranges de l'ère numérique. Grosso modo, moi et Seb, on explore les discussions sur Internet, on visionne des tonnes de contenus vidéo sur YouTube, on se perd dans les forums du Dark Web et tout ça pour vous dénicher les meilleures histoires.
Pas mal. Je ne peux pas dire mieux.
Pas mal. Et du coup, aujourd'hui, nous unissons nos forces pour partir sur la piste des mystères du Canada. Place au dossier du jour.
Celui qui n'a jamais été seul. Dans les rues sinueuses du vieux Montréal se dresse une auberge bâtie au XVIIe siècle. Achetée par le chanteur Garou, elle est devenue depuis un haut lieu de la nuit, sans doute parce que les fêtards n'ont jamais fait attention aux fantômes qui hantent les lieux. Alors Garou possède depuis 2003, avec ses partenaires Guy La Liberté, qui est par ailleurs le fondateur du Cirque du Soleil, et le restaurateur Marc Bollet, un établissement très réputé à Montréal, c'est l'Auberge Saint-Gabriel. On y déguste d'ailleurs, paraît-il, la meilleure fondue suisse de la ville, et elle est notée à 4 sur 5 sur TripAdvisor. Mais ce n'est pas qu'un restaurant, l'Auberge Saint-Gabriel, c'est aussi et surtout un haut lieu de la nuit à Montréal. Il y a un décor spectaculaire, il y a une énorme colonne vertébrale de baleine au plafond, il y a des peaux d'ours, une lampe géante qui est faite avec des caribous empaillés. Enfin, c'est un lieu vraiment à la mode, où on vient boire des bières et profiter de l'ambiance cosy, parfois aussi pour danser lors des DJ sets qu'il y a dans le club branché qui est situé au sous-sol de l'auberge. Mais ce lieu-là a aussi une facette plus sombre. Il est en réalité hanté depuis 2 siècles. Car l'auberge est ancienne, très ancienne. Elle a été bâtie en 1688 par un soldat français, et il s'agit de la première auberge d'Amérique du Nord. C'est elle qui a eu le premier permis d'alcool du pays, qui a été délivré le 4 mars 1754, et au début des années 1800, un drame se serait produit entre ses murs. L'auberge serait hantée par le fantôme d'une petite fille qui aurait été asphyxiée par un feu. À l'époque, il y a eu un incendie au rez-de-chaussée. La petite fille était alors avec son grand-père dans le grenier en train de suivre une leçon de piano. Les deux sont morts asphyxiés par la fumée qui montait d'en bas. Et depuis, elle entrait le grenier de l'auberge. Des employés auraient entendu des sons de piano qui venaient du grenier, l'ancien propriétaire aussi. Christian Page, qui est un homme qui se décrit comme un enquêteur du paranormal et qui a d'ailleurs sorti plusieurs livres sur le sujet, a été interviewé récemment par le blog Isabelle M. Montréal, qui est hébergé sur le site du journal Le Journal de Montréal. Lui, il dit « On a longtemps pensé que l'édifice était hanté. L'ancien propriétaire raconte que parfois, la nuit, quand il savait que l'édifice était désert, il entendait les orgues et les harmoniums jouer d'eux-mêmes. Il prétend aussi que des piles de papier s'envolaient d'elles-mêmes, même s'il n'y avait pas de courant d'air. Il soutient avoir entendu des murmures et des voix, et les employés disent eux aussi avoir vécu des expériences étonnantes. » Alors ça, c'est ce que nous dit Christian Page, mais ce n'est pas le seul à avoir compilé des histoires effrayantes autour de ce lieu. En juin 2015, il y a carrément l'émission L'Étrange Province, qui passe sur TVA, qui a consacré son premier épisode. Alors, L'Étrange Province, c'est une émission qui est présentée par Franck et Karl, qui se présentent comme deux cryptozoologues. L'émission reste avant tout assez humoristique. C'est-à-dire que c'est assez difficile de les croire toujours sur parole. Eux, ils sont venus avec une médium, et ils ont senti, cette nuit passée à l'auberge Saint-Gabriel, une énergie très très négative. Au cours de cette nuit passée sur place, Franck et Karl assurent qu'ils ont entendu le son d'un piano. C'était 23h12, on le voit sur le timecode de la vidéo. Et qu'ils ont également enregistré un phénomène de voix électronique. Vous savez, les fameux PVE où on laisse tourner des bandes magnétiques et on a l'impression d'entendre des voix fantomatiques qui crépitent sur la bande.
Ce serait une espèce de râle, en l'occurrence, mais honnêtement, moi, je l'ai écouté. Après l'avoir entendu, ça pourrait être n'importe quoi. En fait, ça pourrait même être simplement du souffle. Donc là, je ne pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose de paranormal là-dessous. Mais bon, en tout cas, les PVE, c'est le propre des PVE. Ça fait toujours un petit peu flipper quand on les entend. Et ce qui est drôle, c'est que Garou, le chanteur et donc copropriétaire de ce lieu, confirme lui-même la légende. En 2010, il a vu des choses à l'auberge Saint-Gabriel. Et ça, il l'a raconté au journal français Le Parisien, en 2017. Voilà ce qu'il disait. « Il se passe des choses étranges ici. Il y a 7 ans, le matin où ma grand-mère est décédée, pile au moment où mon père m'a annoncé sa disparition, un piano qui est à l'étage dans la salle de réception s'est mis à jouer tout seul. Et deux serveurs l'ont vu. » Voilà, même Garou confirme la présence de fantômes dans l'établissement, et ce fantôme est d'ailleurs très connu, puisque des sociétés organisent des tours du Montréal hanté. Vous savez, il y a les tours Jack l'Éventreur à Londres, là, voilà, c'est des tours du Montréal hanté avec un guide. Et l'auberge Saint-Gabriel est sur le parcours. Et l'organisation Fantôme Montréal fait partie de ces sociétés qui passent régulièrement devant l'auberge Saint-Gabriel. Alors il y a un journaliste du journal Le Devoir qui a participé pour voir ce qui se disait dans ces tours. Il raconte qu'il donnait beaucoup de détails sur l'histoire. Alors je vais vous dire ce que disent les personnes qui organisent les visites durant ce tour. Ils disent que l'auberge appartenait autrefois à un riche marchand de fourrure qui n'avait pas la réputation d'être honnête. Et on raconte qu'un concurrent décida un jour de cacher un baril de poudre dans la maison du commerçant pour la faire exploser. Malheureusement, ce soir-là, dans le grenier de l'auberge Saint-Gabriel, la petite fille du riche marchand suivait sa leçon de piano avec son grand-père, et ils n'en sont pas sortis vivants. Alors, la guide de la société Fantôme Montréal précisait que rien n'était vraiment clair, que ça pourrait être vrai ou pas, et qu'elle, elle ne faisait que raconter finalement les légendes qu'on a entendues sur le lieu, les on-dit, en fait. Donc voilà, l'histoire se termine ici. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez envie d'y croire? Selon moi, le niveau de mystère est tout de même assez élevé, car on a quand même beaucoup de témoignages et de gens sérieux comme Garou, notamment. Donc je voulais savoir, vous, Émile, Sébastien, en tant que Québécois, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire?
En fait, moi, Mathias, j'adore parce que dans la même histoire, tu as réussi à placer Garou et oui. Christian Page. Donc, pour moi, c'est succès assuré. Je connais bien l'auberge Saint-Gabriel, mais moi, personnellement, je sais pas toi, Seb, j'étais même pas au courant que c'était un lieu hanté. Pardonnez mon ignorance.
Non, moi non plus. Je suis autant surpris que toi de n'avoir jamais entendu parler de ça. Pourtant, on est quand même aux aguets de ces histoires-là. Et pas du tout. Même je suis pas un fan de Garou.
Ah non?
Non. Mais bref.
Je profite du fait d'avoir deux personnes québécoises avec nous. Je parlais de Christian Page tout à l'heure et vous aviez l'air de dire que c'est quelqu'un qu'on connaît un petit peu par chez vous.
Oui, Christian Page, connu, oui. C'est le parrain du paranormal au Québec. C'est quelqu'un qui a longtemps fait de la télé, de la radio. Mm-hmm. Il est encore très actif en ce moment. Il y a une chaîne YouTube aussi que vous pouvez aller voir. C'est quelqu'un qui, ça fait plusieurs années, même, je dirais, plus de 20 ans, 25 ans, peut-être même plus, que Christian couvre les événements paranormaux, les mystères. Donc, c'est vraiment une référence au Québec.
Et donc, du coup, vu que la référence du paranormal au Québec a l'air de valider cette histoire, est-ce que vous pensez qu'il faut classer l'affaire? C'est-à-dire se dire que finalement, tout ça, c'est que des on-dit et qu'on classe tout ça, qu'il ne se passe pas vraiment quelque chose de paranormal? Ou est-ce qu'il y a quand même un doute possible?
Ben moi, j'ai l'impression qu'il y a un doute pour vrai. Moi, j'aime bien croire aux entités, aux choses hantées. J'y crois quand même. Au fond de moi, même si jamais... J'ai eu une expérience, mais je ne sais pas si ça venait juste de mon inconscient ou mon subconscient. Mais j'ai vraiment l'impression que... Pourquoi pas? j'aime bien croire à ça. Puis j'ai pas l'impression qu'ils peuvent nécessairement avoir du capital, bâtir du capital sur avoir une auberge hantée. Donc peut-être d'entretenir ça, ça serait pas à leur avantage nécessairement, j'ai l'impression, pour une clientèle. Donc ça me fait penser que c'est vrai. Donc à cause de ça.
Et toi, Charles, qu'est-ce que t'en penses?
On fait tous confiance à Garou, non?
Ben oui.
C'est un homme honnête en plus, je vois pas pourquoi il m'en tirait, non? Non, c'est... Moi, le coup du piano me fait tiquer, je me dis, ouais, bon, des pianos qui jouent tout seuls, il y en a aussi dans le manoir de Disney, hein. Donc c'est pas non plus ça, mais après, ouais, si on corrobore plusieurs témoignages et qu'ils vont dans le même sens, ben pourquoi pas, j'ai envie de dire. En plus, je suis jamais allé au Québec, donc s'il faut, il y a beaucoup plus d'endroits hantés qu'on ne le croit.
Écoute, ce que je te propose, Charles, c'est que la prochaine fois, si un jour on va au Québec et qu'on rejoint nos amis Émilie et Sébastien, qu'on aille boire un coup à l'auberge Saint-Gabriel.
Tout à fait. Bah ouais. Ils ont une magnifique terrasse.
Ah oui, ben voilà, on profitera de la terrasse et on ira. On fera genre, on va aux toilettes, mais en fait, on ira fouiller le grenier pour aller voir si le piano joue vraiment tout seul.
Très bonne idée.
En attendant, on laisse l'affaire en suspens.
La disparition d'Emma Filipov. Le 28 novembre 2012, Emma Filipov a été aperçue pour la dernière fois entre 19h15 et 20h devant l'Empress Hotel à Victoria, en Colombie-Britannique. Elle avait 26 ans. Ce soir, messieurs, on va traiter d'une des disparitions les plus populaires au Canada, qui a été énormément traitée par les médias, qui est toujours active en ce moment. La famille d'Emma Filipov est toujours à la recherche de leur fille. Et puis, c'est un mystère canadien qui est encore d'actualité et dont nous, on a parlé dans un de nos épisodes de Distorsion en novembre dernier. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, si on veut, ben vous pouvez vous rendre sur notre site web pour découvrir cet épisode-là. Mais vous allez voir, messieurs, c'est une histoire assez passionnante, un peu comme l'histoire de Maura Murray, que vous êtes peut-être un peu familier, ou même l'histoire d'Elisa Lam, que je crois vous avez couvert dans le passé. Vous allez voir, c'est une histoire qui est un peu similaire. Donc, Emma Filipov, elle a été vue pour la dernière fois le 28 novembre 2012, comme je le disais, en début de soirée, lorsqu'elle était questionnée par la police de Victoria. Victoria, c'est une ville de Colombie-Britannique, pour vous replacer dans l'espace. La Colombie-Britannique, c'est une province qui est à l'ouest du Canada, donc collée sur l'océan Pacifique. Elle était alors pieds nus en cette froide soirée de novembre. Sa Mazda rouge MPV de 1993 a été retrouvée dans le stationnement du Château Victoria avec la plupart de ses affaires personnelles, c'est-à-dire son passeport, sa carte de membre de la bibliothèque municipale et des livres qui ont été empruntés dernièrement. On y trouvait aussi une caméra numérique, des vêtements, un oreiller, quelques bijoux et son ordinateur personnel. Elle semblait utiliser sa minivan, une Mazda MPV, c'est un genre de SUV, de petite voiture utilitaire. Elle semblait utiliser sa voiture pour entreposer justement tous ses biens physiques. Le matin même de sa disparition, elle a discuté avec les employés du Château Victoria, justement pour savoir si sa voiture allait être remorquée ou pas. Et ce sera la dernière fois qu'elle sera aperçue, et depuis, on la cherche toujours. Je vais revenir un peu en arrière pour vous parler un peu de la vie d'Emma. Emma Filipov, elle est née le 6 janvier 1986 et elle est originaire de Perth en Ontario, donc au Canada. L'Ontario est une province qui est collée sur le Québec, là, qui est quand même à l'est du Canada, qui est juste à côté. Emma est une superbe fille, une grande blonde, athlétique, elle est vraiment magnifique. Avec le temps, Emma va développer une passion pour les voyages et, la culture bohème, si on veut. Ça se reflète aussi dans son look. Elle va porter des longs manteaux, des bandeaux, des foulards. Elle va adopter un mode de vie très simple, un peu nomade, où elle va suivre ses intuitions et ses instincts. À l'automne 2011, justement, ses instincts lui disent de se diriger en Colombie-Britannique. Donc, c'est quand même un long voyage pour quelqu'un qui habite en Ontario. Elle va d'abord se rendre à Campbell River, sur l'île de Vancouver, où elle va travailler comme chef dans un pub, le Royal Coachman. Elle retournera apparemment à Perth pendant un court laps de temps, afin de revenir vers Victoria, en Colombie-Britannique, un peu plus tard. Emma, c'est une chef formée, donc elle est très bonne pour travailler dans des restos, et elle a de l'expérience énormément dans ce domaine-là. C'est donc dans les restaurants qu'elle va commencer à faire des recherches pour trouver un emploi à Victoria. Elle s'est trouvée un petit boulot au restaurant Redfish Bluefish, qui n'est ouvert que durant la saison propice aux produits de la mer, donc vraiment plus en été. Étant donné que l'emploi était saisonnier, elle a quitté cet emploi le 31 octobre 2012 et elle a mentionné à ses collègues qu'elle avait l'intention de revenir l'an prochain lorsque la saison allait recommencer. Elle se fait rapidement des amis dans la région de Victoria. Elle est très extravertie, elle aime l'art, la culture, les concerts, elle se rend souvent au musée ou encore à la bibliothèque de la ville pour y lire et emprunter des livres. Elle fait aussi de la photographie. Elle traîne toujours son appareil film avec elle, donc elle fait de la photo argentique. On la décrit comme quelqu'un qui illumine la pièce dès qu'elle entre quelque part, par son sourire, sa beauté, son charisme naturel. Elle attire donc beaucoup les regards et les garçons, évidemment, qui sont très souvent attirés par elle. On dit qu'elle a un peu la naïveté d'un enfant, qu'elle va souvent faire des références à des fables pour enfants lorsqu'elle parle ou écrit à ses amis. Et on le sait, hein, qui dit naïveté dit souvent quelqu'un qui peut être propice à la manipulation, n'est-ce pas, Seb?
Absolument.
En novembre 2012, c'est là que tout bascule, en fait. Les jours qui ont précédé sa disparition, Emma va téléphoner à sa mère à plusieurs reprises en lui demandant si elle pouvait pas revenir à la maison. Sa mère n'avait aucune objection. Bien sûr, elle lui dit « T'es ma fille, tu peux toujours revenir à la maison sans problème. » Mais à chaque appel, Emma change de ton soudainement et demande alors à sa mère de ne pas venir la chercher. Elle va faire ça pendant 3 ou 4 jours. Lors du dernier appel à sa mère va constater qu'elle est restée dans un refuge pour femmes, car le numéro sur l'afficheur indiquait justement qu'elle habitait dans un refuge qui est souvent fréquenté par des femmes battues. Habituellement, elle l'appelait à frais virés d'une cabine téléphonique, mais là, alors, elle va l'appeler de ce refuge-là. C'est à ce moment-là que sa mère n'écoute pas ce que Emma lui dit et décide de partir pour Victoria pour aller la rejoindre coûte que coûte. En avion, évidemment. Elle prend le prochain vol pour Victoria. Et les derniers mots d'Emma à sa mère étaient « Je ne sais pas comment je peux vous affronter, j'ai honte ». Sa mère est arrivée au refuge vers 23h le 28 novembre, 3 heures après qu'Emma ait été vue pour la dernière fois par la police à l'hôtel Empress. Donc quand même une suite d'événements assez intrigante. Emma, elle va justement appeler à sa mère plusieurs fois les jours précédant sa disparition. Elle va toujours lui dire la même chose. « J'ai l'impression que quelqu'un me suit, je me sens pas bien, j'ai besoin d'aide. » Et à chaque fois, sa mère va lui dire « Mais oui, je peux aller te chercher, ou tu peux revenir à la maison, je peux t'acheter un billet d'avion, tu peux revenir à Perth, il n'y a pas de problème. » Mais Emma va toujours la rappeler en lui disant « Non, finalement, les choses se sont calmées, je préfère que rester ici, tout va bien. » Et elle va faire ça 3-4 jours de suite. Donc, c'est quand même assez inquiétant d'un point de vue d'un parent. Et on va revenir tranquillement sur la chronologie du 28 novembre, donc cette journée où Emma est disparue, qui est quand même une longue journée où il s'est passé plusieurs choses et où elle a été aperçue à plusieurs reprises. À 4h30 AM, vraiment au petit matin, elle téléphone à sa mère pour la dernière fois en lui disant une fois de plus de ne pas venir à Victoria. Donc, il est quand même 4h30 AM, là, un appel quand même assez tard dans la nuit. À 7h, elle discute avec les employés du Château Victoria puisque son Mazda MPV, sa voiture, il serait fait remorquer. Donc, elle veut savoir qu'est-ce qu'il en est avec ça étant donné que tous ses effets personnels sont à l'intérieur de cette voiture-là. À 8h23, Emma a été capturée dans une vidéo de surveillance d'un magasin 7-Eleven sur Government Street en train d'acheter un téléphone cellulaire prépayé. La vidéo a montré qu'elle hésitait à quitter le magasin, apparemment en vérifiant la rue à l'extérieur. Donc, on la voit, cette vidéo-là, elle est disponible sur YouTube, vous pouvez la voir. On voit Emma qui achète un téléphone cellulaire. Déjà, c'est pas son genre à elle, elle possédait pas de téléphone cellulaire auparavant. Donc, on se demande un peu pourquoi elle fait ça. Et on la voit, elle semble vraiment en état de paranoïa, elle regarde à l'extérieur, elle est toujours en train de se rapprocher de la porte de ce magasin-là, de s'éloigner un peu, de se rapprocher. Elle va rester quand même plusieurs minutes à l'intérieur de ce magasin-là. Vers 10h, elle est aperçue par un ami, Julien, qui l'aperçoit alors qu'il est dans le bus. Il descend pour aller la rejoindre et à ce moment-là, elle porte un grand manteau bouffant de couleur claire avec un capuchon sur la tête. Elle ne bouge pas et elle porte plusieurs sacs de plastique aux épaules, des genres de sacs d'épicerie, là. Il lui demande si elle veut de l'aide et elle va indiquer par un hochement de tête que non, en fait, elle n'a pas besoin d'aide. Apparemment qu'elle a l'air vraiment confuse et qu'elle a un regard vide. Vers midi, elle aurait été aperçue à la bibliothèque municipale, encore une fois, où elle va souvent lire dans la section pour enfants. Donc, grosse journée pour Emma. En après-midi, 2 personnes affirment l'avoir vue se promener dans la rue, confuse et perdue. Ils vont appeler la police à ce moment-là, mais aucun suivi va être effectué auprès d'Emma suivant cet appel-là. Un peu plus tard, en fin d'après-midi, vers 17h54, elle est retournée au même magasin 7-Eleven pour acheter une carte de crédit prépayée de 200$. Encore une fois, elle est capturée par la vidéo de surveillance et on voit un peu le même comportement. Donc, elle se rapproche de la fenêtre, elle regarde dehors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on se rappelle, jusqu'à présent, elle a acheté un téléphone cellulaire et une carte prépayée de 200$ à cette boutique-là. Selon le témoignage, elle aurait quitté le refuge pour femmes, le Sandy Merriman House, vers 18h ce jour-là. Peu après, elle a attrapé un taxi et a demandé d'être amenée à l'aéroport. Cependant, elle a quitté le taxi en cours de route, faute d'argent, même si elle venait justement de s'acheter une carte de crédit prépayée de 200$ achetée plus tôt et que Emma aurait plusieurs milliers de dollars dans son compte en banque. Donc, le taxi va simplement la ramener au point de départ, va faire quelques tours de bloc, étant donné qu'on est une soirée froide, jusqu'à ce qu'il ait un appel pour un autre client. C'est quand même assez étrange, il va redéposer Emma par la suite. Vers 19h, elle a été vue marcher pieds nus devant l'hôtel Empress. Une de ses connaissances, Dennis Quay, a appelé le 911 pour dire qu'une femme était en grande détresse devant l'hôtel. Le 911, messieurs, en France, c'est notre numéro d'appel d'urgence. Je ne sais pas si c'est le même chez vous.
Non, c'est pas exactement le même, mais oui, on connaît le 911.
Exactement. Si vous avez une urgence au Canada ou aux États-Unis, vous allez le savoir.
Vous savez quoi faire.
Donc, son ami va la croiser en traversant la rue. Il va se rendre compte tout de suite qu'Emma, elle n'a pas un comportement normal. Donc, elle est très confuse, elle est pieds nus, il fait froid, elle semble un peu en détresse. Et c'est lui qui va appeler la police. Les policiers vont arriver, la police de Victoria et l'Empress Hotel, ils vont recueillir son nom et ils ont passé 45 minutes à lui parler. Décidant qu'elle n'était pas une menace pour elle-même ni pour quelqu'un d'autre, ils l'ont libérée et puis personne n'a rapporté avoir vu Emma depuis 20 heures ce soir-là. Vers 23 heures, sa mère, Shelley, arrive à Victoria et se dirige vers le Sandy Merriman, qui est le refuge pour femmes. Et plus tard dans la soirée, la police a rencontré la mère de Philipoff au Sandy Merriman à minuit. Et Emma, elle est reportée à ce moment-là comme une personne disparue. Les enquêteurs ont exploré plus de 200 pistes, révélant des informations minimales malheureusement. La plupart des preuves indiquent qu'elle prévoyait retourner à Ottawa, mais il n'y a aucune preuve qu'elle ait quitté la ville. Le 23 novembre, la caméra de sécurité du YMCA de Victoria, qui est un peu un centre où on peut faire du plein air, où on peut rencontrer des professionnels de la santé, donc quelques jours avant sa disparition, on voit que Emma entre dans le YMCA à plusieurs reprises. Elle entre et elle sort, et elle semble encore surveiller quelqu'un à l'extérieur qu'elle semble vouloir éviter. Elle a encore une fois plusieurs sacs sur elle, elle semble un peu en détresse, donc quelques jours avant sa disparition. On va se rendre compte aussi que la fameuse carte de crédit prépayée aurait été retrouvée sur le côté de la route au nord de la ville d'où Philipoff a disparu, donc au nord de Victoria. La carte a été retrouvée par un étranger et l'utilisation de la carte a confirmé qu'on l'a utilisée pour acheter des cigarettes et les policiers ont retracé justement cette carte-là. Apparemment que ce serait un itinérant qui aurait découvert la carte et l'aurait utilisée pour acheter des cigarettes, mais sans plus. Et puis, c'est le dernier indice qu'on a d'Emma Philipoff. On sait aussi qu'auparavant, les gens du refuge pour femmes auraient témoigné comme quoi Emma aurait eu un peu un épisode, comment dire, de maladie mentale ou de paranoïa où elle aurait sorti tous ses effets personnels de sa chambre sur le terrain du refuge pour femmes en prétendant que ces objets lui voulaient du mal. Donc, plusieurs éléments de confusion, très peu d'indices. Et puis, ça fait 5 ans, même bientôt 6 ans, que cette histoire perdure sans qu'on ait de nouveautés, si on veut. Il y a plusieurs hypothèses. Évidemment, on se dit, est-ce qu'elle a été kidnappée par quelqu'un lorsqu'elle était en détresse et que quelque chose de terrible lui est arrivé? On ne sait pas. Est-ce qu'elle souhaitait quitter d'elle-même en achetant cette carte prépayée et en achetant ce téléphone cellulaire-là et en souhaitant embarquer dans un taxi? Ou est-ce qu'elle voulait aller retrouver sa mère à l'aéroport? Parce que peut-être qu'elle l'avait appris que sa mère allait la rejoindre. C'est très difficile d'avoir une idée claire là-dessus. Je sais pas, Seb, toi, qu'est-ce que t'en penses?
J'ai un peu la même opinion que toi. Hein. C'est assez nébuleux. Le fait que son téléphone portable n'a pas été activé, j'ai pas l'impression qu'elle avait l'état mental pour orchestrer une fuite. Je pense vraiment qu'elle est, selon moi, elle a dû être kidnappée, tuée, et on n'a jamais retrouvé son corps, ou du moins... On n'a toujours pas de traces. J'ai vraiment l'impression qu'elle n'a pas tout fait ça par elle-même puis qu'elle habite peut-être dans une province sous un autre nom actuellement.
Vous, messieurs, Charles et Mathias, aviez-vous déjà entendu parler de cette histoire?
Alors, moi, j'en avais déjà entendu parler puisque j'avais écouté votre épisode sur Emma Philipoff, forcément.
Pareil.
Qui était très complet. Et donc, c'est vrai que l'histoire ressemble un petit peu... Enfin, moi, ça m'a fait penser sur certains éléments à Elisa Lam. C'est vrai qu'il y a énormément de mystères autour de là-dessus et c'est une affaire qui restera à jamais non classée. Je pense, à moins qu'on finisse par la retrouver quelque part ou malheureusement son corps. Mais c'est vrai que c'est une histoire très, très mystérieuse que j'avais beaucoup aimée. Et toi, Charles, je crois que tu la connaissais pas, celle-là.
Ben, je l'avais entendue, si. J'avais entendu dans leur... dans l'épisode où... vous en parliez quand même, et puis en effet ça m'a fait penser à Elisa Lam, notamment sur le coup de pas forcément le déroulement de l'affaire mais ce qu'il en reste et ce à partir de quoi finalement on spécule sur internet, sur cette histoire qui est en fait la vidéo, et c'est génial parce que dans les deux cas, en fait on interprète ce qu'on voit
c'est très
et on a du mal à on n'arrive pas à calquer quelque chose de cohérent sur ce qu'on voit. Donc du coup, ça donne lieu à aux théories les plus folles, alors qu'en fait, s'il faut, le contexte étant remis, ce qu'elle fait est peut-être très cohérent, mais en dehors du contexte, juste la caméra de vidéosurveillance fait que ça donne lieu à beaucoup de fantasmes, finalement.
Et puis cette histoire de la retrouver pieds nus, désorientée devant l'hôtel, c'est vrai que c'est une image assez étrange en elle-même, quoi. Donc c'est normal que ça nourrit tout ça.
Donc voilà, messieurs, j'ai pas l'impression qu'on va pouvoir classer cette histoire, malheureusement, ce soir, on va devoir faire des suivis.
Je pense aussi.
Mais par contre, le niveau de mystère est particulièrement élevé, pour le coup.
Ouais, totalement bureau des mystères.
Le mystère de la grosse boîte blanche. En 1962, une mystérieuse boîte blanche est tombée du ciel canadien. Son incroyable secret ne sera révélé que 55 ans plus tard. Nous sommes donc en 1962, dans la forêt de Lutz Mountain, dans le Nouveau-Brunswick, New Brunswick au Canada. Donc c'est près de la ville de Moncton, donc c'est à l'est du Québec, sur la côte atlantique. Je dis ça, j'ai quelques rudiments de géographie canadienne. Et à ce moment-là, je crois que c'est encore John Diefenbaker qui est Premier ministre. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Donc David McPherson Senior est bûcheron. Il se balade dans la forêt. Il cherchait du bois à fendre, pour être exact. Et là, ça ne s'invente pas. On ne peut pas tomber plus rapidement dans le cliché du bonhomme canadien avec sa chemise à carreaux qui coupe du bois dans la forêt. Et donc, David McPherson va
tomber. Moi et Seb sommes toujours habillés comme ça en passant.
Ah ben ça, on n'en doute pas, vous avez des haches, évidemment.
Absolument, le pire c'est que c'est vrai.
Alors ce cher David McPherson, du coup, va tomber nez à nez avec une grosse boîte blanche. Celle-ci sera suspendue au-dessus du sol, non pas qu'elle lévite ou quoi que ce soit, mais parce qu'elle possède un espèce de gros parachute, ce qui ressemble à un gros parachute, qui est comme ça pris dans les branches de la forêt, donc elle flotte un peu au-dessus du sol. Et c'est vraiment une grosse boîte, hein, puisqu'elle fait 181 kilos, donc c'est un gros objet. Mais surtout, elle a quelque chose comme deux énormes lentilles de caméra qui sont visibles depuis l'extérieur. On ne voit pas très bien, on ne comprend pas très bien, surtout qu'elle est un petit peu abîmée, elle est un petit peu sale. Mais pour vous la faire rapidement, c'est un objet qui a l'air un peu futuriste, blanc, assez immaculé, et avec ce qui ressemble à deux objectifs. Donc David McPherson va aller chercher son petit bulldozer pour ramener l'objet des 180 kilos chez lui. Et c'est sa femme, Loïs, qui était très curieuse de l'objet, qui va ouvrir la boîte et découvrir qu'il y avait en effet à l'intérieur deux grosses caméras. Plus bizarre encore, à l'intérieur de la boîte, Loïs va découvrir une douzaine de bouteilles de liquide clair. Donc elle ne va pas identifier ce que c'est, elle ne va pas chercher à ouvrir. Mais ces bouteilles de liquide clair, elles entouraient les deux objectifs. Il y avait quelques inscriptions à l'intérieur, mais le problème c'est que les mots qui étaient écrits ne l'étaient pas en anglais. Donc du coup, Loïs n'a pas réussi à les déchiffrer. Elle estime après que ça ressemblait à du russe, mais elle n'était pas sûre. La presse locale va commencer à parler évidemment de cette étrange découverte. Hein. C'est un homme local qui a découvert, donc du coup il va avoir quelques articles. Et ces quelques articles vont commencer à attirer l'attention des militaires. Donc la famille va quand même garder l'objet. Ils vont recevoir quelques demandes de la part des militaires de leur remettre l'objet, mais ils ne vont pas obtempérer. À la place, la famille va interpeller les autorités à de nombreuses reprises. Ils vont faire ça pendant des années, sans jamais avoir de réponse de leur part. Ils vont recevoir des lettres de refus à chaque fois, hein. ils vont envoyer des lettres à la NASA, ils vont envoyer des lettres au Musée international de l'espionnage et à Environnement Canada. Alors j'ai fait quelques recherches, Environnement Canada c'est l'équivalent de Météo France, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont sans doute eu comme hypothèse qu'il s'agissait d'une sonde météorologique. Mais personne n'a réussi à résoudre ce mystère de la grosse boîte blanche de Lutz Mountain, qui au fil des années du coup sera nommée The Thing in the Woods, donc la chose dans les bois. Et au bout d'un moment, les militaires, voyant que les McPherson ne répondent pas à leurs sollicitations, les militaires vont simplement débarquer chez les McPherson. Sans même répondre à leurs questions, ils vont tenter d'embarquer la boîte. Et là, c'est Loïs McPherson qui décrit la scène. Elle dit « Un grand camion a reculé dans le jardin jusqu'au garage où on gardait la chose et six hommes en sont sortis
et ont tenté de le charger à l'arrière du véhicule. Chance pour eux, 181 kilos, c'est pas léger, et elle a apparemment, Loïs a réussi à s'interposer, je sais pas si elle s'est assise en plus sur la boîte ou pas, mais elle a réussi à s'interposer et elle va réussir à repousser les 6 militaires, à elle toute seule apparemment.
Elle est forte. Hein.
Ouais, elle est convaincante et elle va être sans doute énervée qu'on ne réponde pas à ses questions.
Alors, elle va énervée au point de faire fuir 6 militaires.
Ouais. Ils vont partir, mais ils vont partir pour mieux revenir et ils vont la jouer un peu plus fine, ils vont la jouer un peu plus vicieux, les militaires, puisqu'ils vont revenir quelques jours plus tard avec une toute nouvelle stratégie. Ils vont écouter Loïs McPherson et ils vont lui promettre qu'elle pourra venir avec eux si jamais ils ouvrent la boîte et qu'ils lui diraient ce que c'était et pourquoi c'était là.
Après, ils vont la taser et enlever le truc.
La pauvre. Non, ils vont pas. Apparemment, ils vont pas trop user de violence sur elle. Mais du coup, elle va les croire, hein, assez logiquement. Mais malheureusement, une fois les militaires partis, les McPherson n'auront plus jamais de nouvelles et plus personne ne revit jamais la grosse boîte blanche. À partir de là, le mystère s'estompe un peu, l'histoire, disons, ne disparaît pas parce que la famille continue ses investigations et continue apparemment un peu à harceler la NASA, le Musée international de l'espionnage et Environnement Canada. Mais les journaux vont dire, grosso modo, vont essayer d'apporter des conclusions à cette histoire. Les journaux de Moncton, notamment, vont affirmer qu'il s'agissait d'un ballon météo. Cependant, l'hypothèse est quand même peu probable parce qu'on peut se dire que si c'était un ballon météo, bah, quelqu'un serait revenu le chercher, peut-être.
L'armée ne serait pas venue récupérer un simple ballon météo.
Voilà. On peut avoir quelques doutes, hein, sur ce genre d'hypothèse. Et à partir de là, donc, la famille McPherson ne va pas arrêter de rechercher. C'est leur fils, c'est le fils de David, Eloïs, qui va reprendre les investigations. Il va continuer. Hein, l'objet a été trouvé, pour rappel, en 1962. Hein, et ils vont envoyer des lettres. Les dernières images que j'ai vues dataient de 1989. Donc ils vont pas lâcher l'affaire si facilement. Mais il faudra attendre 2017 finalement et un article de CBC pour que des internautes se plongent dans des documents déclassifiés d'une certaine agence américaine.
Oh non, c'est encore la CIA.
Ils vont aller sur internet, regarder certains documents pour faire un rapprochement avec un projet Genetrix et cette fameuse boîte blanche découverte par les McPherson. Et évidemment, le projet Genetrix est un projet de la CIA.
J'en peux plus de toi.
Évidemment. Et les recherches sont allées assez vite parce que apparemment, plusieurs des documents de la CIA contiendraient des photographies d'objets dont l'apparence, en fait, est très proche de l'objet découvert par les McPherson. On a un objet très tout à fait blanc, en fait, très simple, avec de chaque côté, il est un peu, je ne sais pas comment décrire, il est un peu en forme d'octogone, et sur deux de ses côtés, il y a des lentilles d'appareil photo. Et en fait, il s'agirait d'une sonde donc provenant d'un ballon d'observation de haute altitude qui était utilisé par les États-Unis durant la guerre froide pour survoler et la Russie et la Chine, pour photographier tout simplement les deux pays. Alors du coup, ça explique assez simplement les puissants téléobjectifs et le poids de la bête, hein, parce qu'à l'époque, on miniaturisait pas les téléobjectifs de la même manière, d'où le poids, d'où les caméras, tout ça s'explique. Et ces ballons, en fait, avaient pour objectif de survoler des contrées qui n'étaient pas accessibles à pied, et surtout, ils étaient assez lents, finalement, pour pouvoir faire une topographie assez précise des lieux. Donc la boîte aurait fait partie du coup de ce projet Genetrix qui avait été approuvé par le président Eisenhower. Et dans ce projet, c'est un peu plus de 500 ballons de très haute altitude qui servaient à l'espionnage, qui ont été lâchés dans le ciel durant les années 50. Donc il a fait un sacré parcours finalement, le ballon, puisqu'il aurait été lâché. On sait pas. Alors par contre, on ne sait pas à partir d'où il a été lâché, mais il a été lâché dans l'espoir qu'avec le vent, il survole la Russie et la Chine. Et selon les experts, ce n'est pas vraiment étonnant qu'un tel ballon se retrouve finalement à tomber au Canada, puisque selon le sens des vents, et au final, près d'une décennie plus tard, il serait à peu près normal qu'un ballon avec l'appareil photo de cette taille vienne s'échouer.
Puisque le problème de ces ballons, surtout à l'époque, c'est évidemment qu'ils étaient très sensibles aux conditions météorologiques et qu'ils pouvaient dévier au gré du vent, et que certains n'ont sans doute même pas survolé les zones qu'ils devaient survoler. Donc voilà, pour le dénouement de cette histoire, du coup, les parents Macpherson, donc Loïs et David, ne connaîtront jamais le dénouement, finalement, de l'histoire, et c'est ça qui est peut-être un peu triste, puisque l'armée ne leur révélera jamais l'affaire de leur vivant. Hein. Loïs est décédé en 2004 et David est décédé en 2015, mais leur fils a en tout cas trouvé satisfaction, comme quoi quelques clics sur Internet dans les documents de la CIA, ça aide.
Comme toujours. Vous connaissez cette histoire ?
Non, pas du tout. Dans mon cas, ce que je suis surpris, il n'y avait pas d'utilisation de GPS même à cette époque-là non plus.
Hein. Bah, apparemment, en tous les cas, ou à moins que la boîte, je ne sais pas comment c'était alimenté, mais je pense que ça devait être fait pour consommer vraiment un minimum d'énergie, comme c'était suspendu. Mm-hmm. C'était censé être suspendu en l'air le plus longtemps possible. Ça devait consommer, je pense, le moins d'énergie possible. Et je pense que la seule énergie consommée, ça devait être le déclenchement de l'objectif, le déclenchement du pour la photo. Mais je pense que sinon, non, il devait même pas y avoir de technologie GPS dessus. Ce qui explique aussi qu'il ne l'ait pas finalement pas retrouvé avant que la presse en parle.
Effectivement.
Les ballons satellites sont souvent des boucs émissaires pour toutes les théories d'OVNI et tout ça.
De conspiration, oui.
Oui, souvent, on blâme le ballon satellite à chaque fois, mais j'ai l'impression que c'est peut-être possible dans ce cas-ci.
Oui, moi aussi, j'ai le même feeling.
Ouais, ben là en l'occurrence, ils sont pas allés. Les Macpherson, ils ont jamais versé dans ni dans la théorie du complot, ni dans la théorie extraterrestre. Ils sont restés vraiment très terre à terre. Ils se sont doutés assez rapidement que c'était pas une sonde météo. Ils y ont pensé au début quand ils l'ont ramené. C'est pour ça qu'ils l'ont ramené d'ailleurs à la base. C'est parce qu'ils pensaient que quelqu'un allait en avoir besoin. Mais très vite, quand ils ont vu que personne ne voulait le récupérer et que ce sont des militaires qui sont venus chez eux, ils ont compris que c'était tout à fait autre chose. Eux, leur seul souhait finalement, ils sont restés assez terre à terre hein, vis-à-vis de ça. Leur seul souhait, c'était de savoir ce qu'ils avaient découvert, quoi. C'était de savoir ça. Et malheureusement, les parents ne le sauront jamais.
Je trouve ça quand même un petit peu utopique, même pour l'armée de l'époque, d'envoyer des ballons pour prendre des photos sur des appareils photos que s'ils ne récupèrent pas, ils ne peuvent pas avoir de traces. Il n'y avait pas de transfert Exactement. Numérique ou quoi que ce soit. Comme on dit en bon québécois, c'est un gros guess d'envoyer des ballons comme ça dans les airs sans avoir vraiment espoir de retour pour avoir quelques photos. Je veux dire, même à l'époque, je ne suis pas sûr qu'ils pouvaient faire des zooms à distance. Je trouve ça quand même, avec du recul, je trouve ça particulier comme initiative.
Et puis surtout, ce qui m'a interrogé, c'est que finalement, dans l'histoire, elle ouvre et elle trouve des inscriptions qui ressemblent à du russe. Et là, on se dit, pourquoi ? Et la seule explication que j'ai trouvée à ça, si jamais c'est la CIA, parce que visiblement... ça corroborerait pour que ce soit la CIA, mais la seule hypothèse que j'ai trouvée à ça, c'est que finalement ils ont eu peur que les ballons tombent et soient finalement retrouvés en Chine ou dans d'autres pays, et que du coup ça puisse potentiellement accuser les Russes. Vous voyez, genre que le fait que ce soit écrit en russe à l'intérieur, eux ils peuvent se dédouaner de la chose et dire ah non mais c'est pas.
J'aime bien cette hypothèse.
Ils sont embêtés à aller écrire leur notice en russe pour brouiller les pistes. Enfin bon, voilà, du coup, le niveau de mystère a été levé par les internautes, finalement. Mais c'est une histoire que je pense on peut considérer classée.
C'est classé.
Le culte de Nature Boy. Le 23 février 2017, Kayla Jean Reed, 21 ans, qui habite toujours chez ses parents, quitte le nid familial pour un week-end de retraite fermée. Sa famille savait qu'elle préparait un voyage de retraite spirituelle depuis plusieurs semaines, mais elle n'avait pas donné plus de détails que ça. Le week-end passe, et après plusieurs jours, Kayla ne rentre toujours pas à la maison et ne donne pas de nouvelles à sa famille. Tammy Reed, sa mère, est très inquiète. Elle contacte la police de Corner Brook. Corner Brook, en fait, c'est une petite ville d'à peine 20 000 habitants qui est située sur la côte ouest de l'île de Terre-Neuve, à Terre-Neuve-Labrador, bien sûr, au Canada.
On est encore dans l'est du Canada, là, un peu comme le mystère dont tu nous as parlé, Charles. Ce mystère-là est encore originaire de la même région.
Effectivement. Le 3 mars, soit quelques jours après qu'elle ait été portée disparue officiellement par les autorités locales, parce que sa mère, elle s'inquiétait, là, elle a déclaré disparue à la police, des membres de sa famille ont aperçu Kayla dans une vidéo sur YouTube. Elle était présentée par un certain Eligio Bishop, alias Nature Boy. Et il était en plein discours, entouré de plusieurs personnes disons autour de lui qui l'écoutaient. Je vous fais écouter un petit extrait. En fait, c'est la vidéo en tant que telle où que Kyla a été apparue au grand jour.
You see some so-called hardware that are lower self with the consciousness, the software of the higher self. That's where you have my friend. And I've let everybody know your name.
I'm Ray.
Yeah.
Peace Reflection.
Ray. How did Ray. You pop up here?
Sun Ray.
Sun Ray. Ray's here. Wait, isn't Nature Boy a prejudice? Isn't he racist? How does he have white people there? Reflection. This hardware that you are now looking at, this hardware is a mutation hardware from the archetype. This reflection here is a reflection of that. The original of this hardware came out to show everyone and all of their actions what they're doing. But not all. And this is where it gets tricky, because we're all broken up in all kinds of ways. But no one truly knows what the archetype is anymore. You cannot become the archetype or be the archetype without having the archetype software. So here is one that doesn't have the archetype hardware, but has the archetype software. Here is one that doesn't have the archetype hardware, but has the archetype software consciousness.
Déjà, Seb, ça doit être assez troublant de voir sa fille dans une vidéo sur YouTube une fois qu'elle est disparue après plusieurs semaines en disant qu'elle était partie dans une retraite.
Oui, exactement. Et même la police, à cette époque-là, ils ne croyaient pas qu'elle était à l'extérieur de Saint-Jean. Ils croyaient encore qu'elle était peut-être disparue ou en fugue. On n'est pas vraiment en fugue quand on est adulte, mais tout de même, ils croyaient vraiment qu'elle était encore au Canada. Et justement, juste pour vous donner un petit compte-rendu
de la vidéo,
qui est assez particulière, en fait, où ce qu'on peut l'entendre, ça a été vraiment filmé en plein milieu d'un discours. On entend justement Nature Boy qui nous introduit Sun Ray, qui est Kyla, en fait. Il a décidé de l'appeler Sun Ray parce que son nom, c'est Kyla Reed, Ray Reed, là, c'est un peu pour ça. Puis il a toujours dit qu'elle était rayonnante. Fait particulier, c'est la seule blanche dans la vidéo. Et c'est un peu pour ça, quand il nous parle, justement, quand il parle de hardware, de matériel, lui, il parle de son corps à la peau blanche. Il mentionne qu'elle a eu un peu, dans le fond, parce que pour lui, je me scoope un peu, mais pour lui, les hommes et les femmes sont des Noirs et qui ont été créés, la peau des Noirs a été créée par le soleil, et toute personne qui n'est pas de cette couleur-là, de cet archétype-là, c'est quelqu'un qui doit se développer. Si on veut. Donc, elle a le hardware pas complètement fini, mais sa conscience, son software, lui, il est fini. Mais donc, elle doit par son software, développer sa peau blanche. C'est un peu confus, je dois avouer, là, même moi-même, quand je l'écoutais.
Donc, ça laisse sous-entendre qu'elle a été approchée par une secte.
Oui. En fait, c'est elle qui a fait les démarches, du moins de ce qu'on entend, parce qu'elle n'a jamais été forcée pour s'y rendre. Et justement, Nature Boy, il est extrêmement présent sur le web. On va y revenir. Mais oui, c'est elle qui a fait toutes les démarches depuis plusieurs semaines. Elle s'était même confiée à une de ses amies sur Nature Boy, mais elle n'en avait pas parlé à sa mère à ce moment-là.
Puis cette vidéo-là a été tournée au Costa Rica. Au moment où on se demande vraiment où elle est, vous le demandez vous aussi, elle se retrouve au Costa Rica dans une genre de secte animé par cet individu mystérieux du nom de Nature Boy.
Voilà. Entre-temps, justement, elle a même appris sa mère, parce qu'elle avait quitté la maison le 23 février, mais elle a appris qu'elle avait pris l'avion, finalement, seulement le 26 février. Donc, il y a même eu dans son parcours, qu'on ne sait pas exactement ce qu'elle a fait, il y a 3 jours qu'on n'a aucune idée ce que Kyla a fait au Canada avant de prendre l'avion. Donc là, toutes les démarches sont sont enclenchées au niveau de la police. Les autorités, autour du 13 mars, il y a à peu près une dizaine de jours qui se sont écoulés d'ici ce temps-là, les autorités canadiennes, les autorités aussi, parce que le gouvernement canadien s'en est quand même mêlé, la police provinciale de Terre-Neuve ont réussi à contacter Kyla au Costa Rica. Et donc, ils lui ont parlé, ils se sont assurés qu'elle était là de son plein gré et qu'elle était en sécurité. Donc, le dossier de disparition a été clos assez rapidement, je vous dirais, étant donné qu'elle n'est pas disparue. Elle est vivante, c'est une adulte. Mm-hmm. Le 18 mars, donc à peu près 5 jours plus tard, 2017, Sunray ouvre un nouveau compte, Kyla. Elle ouvre un nouveau compte Facebook où elle diffuse une vidéo live où elle mentionne ne pas vouloir revenir à la maison. Parce qu'entre-temps, il y a eu un peu un battage médiatique de la part de la mère, Tammy Reed, qui suppliait sa fille de revenir à la maison. Et c'est venu, ça a fait écho quand même assez rapidement là-bas.
C'est une histoire qui a été énormément suivie par la CBC, entre autres.
Exactement.
De l'Est du Canada.
Oui, exact. Et justement, dans la vidéo, elle est un peu particulière. J'ai pas réussi à la retrouver. Elle a été supprimée complètement quelques heures après sa diffusion. Elle parlait d'elle à la troisième personne. Elle se nommait toujours comme « The One ». Elle parlait aussi que les membres de sa famille biologique sont des démons, que sa ville natale, c'est un peu comme Babylone. Elle faisait une référence un peu à toute l'histoire chrétienne autour de ça, que sa nouvelle famille est maintenant au Costa Rica. Elle indique que « The Mother », donc la mère nature, était là pour elle, qu'elle subsistait à ses besoins primaires. Elle mentionnait la nourriture, mais aussi l'autobus. Puis je mentionne l'autobus parce que vous allez voir si vous tombez dans cette histoire-là qui est un peu un loophole là, quand on commence
à fouiller
sur Nature Boy. C'est assez fascinant, toutes les histoires qui lui sont arrivées. Il y est toujours dans un autobus avec sa gang en arrière de lui. J'ai toujours trouvé ça un petit peu particulier comme décor. Le dossier est remédiatisé, bien sûr. Elle n'est plus portée disparue, comme je vous disais. Par contre, les autorités canadiennes, ils ne peuvent rien faire à ce moment-là parce qu'elle est légalement au pays, le Costa Rica. N'importe quel voyageur a un visa automatique de 90 jours dès que tu as un passeport, du moins canadien. Donc, de ce niveau-là, il n'y avait pas de problème légaux. Même Nature Boy, lui aussi, ses papiers étaient légaux au moment où tout ça s'est passé, au mois de mars 2017. En fait, la mère était totalement impuissante devant sa fille, oui, qu'elle voyait un peu au proie d'une secte. Elle était vraiment inquiète. La raison en fait particulière aussi, autre que le fait que c'était sa fille, c'est qu'elle a un historique de santé mentale. On en parlait avec Emma Philippoff et Lisa Lam. Souvent, ces gens-là ont souvent eu des historiques de problèmes mentaux. Et selon elle, Nature Boy lui a fait subir un lavage de cerveau.
Mais qui est justement ce Nature Boy, Seb?
C'est Eligio Bishop. Il est âgé de 35 ans. Et selon sa page Facebook, actuellement, il est marié à Velvet Marquez. Il s'autoproclame lui-même le leader d'un culte. Il dit lui-même que c'est un culte. Justement, qu'est-ce qu'un culte selon la vraie définition et pas la définition de notre Nature Boy? C'est un système de vénération et de dévotion religieuse qui est dirigé vers une figure ou un objet particulier. Mais il y a un expert aux États-Unis qui s'appelle Rick Allen Ross, qui est vraiment un spécialiste des cultes aux États-Unis, qui a témoigné dans l'histoire des sectes à Waco, au Texas, si vous êtes familier. Pour lui, les disciples n'achètent pas dans les croyances énoncées autant qu'ils l'achètent dans l'homme qui les prêche. Donc, la personne, oui, est encore plus importante que le message en tant que tel. Et Nature Boy, c'est quelqu'un, selon lui aussi, qui montre des signes d'un leader assez dangereux. Je reviens à son passé. Justement, on parlait qu'il était un être assez charismatique. Il s'exprime bien. C'est un ancien mannequin. On voit par ses abdominaux qu'il ne mange pas beaucoup de poutine et qu'il ne boit pas beaucoup de bière au Costa Rica. C'est un ancien danseur nu. Il a même avoué qu'il s'est déjà prostitué pour l'argent sur sa page Facebook. Et il a fini comme coiffeur, un barber, un barbier, en 2004. Et comme je vous disais, il s'autoproclame meneur d'un culte. En 2009, il a été arrêté pour diverses infractions, voies de fait, vol, conduite sans permis. En 2014, il a décidé de prendre le droit chemin de la vie. Et il a suivi justement son cours de coiffure pour devenir un coiffeur, un barbershop, ouvrir une barbershop. Il en a ouvert une en Géorgie en 2014. Par contre, ça n'a pas eu l'air de très bien fonctionner. En 2016, sur sa page Facebook, il nous mentionne qu'il s'en va en voyage et qu'il écrit « Le voyage de l'Ascension a commencé ». Il se dirige vers les Honduras. Et c'est un peu particulier, le post Facebook qu'il a écrit. Il a demandé à ses amis de le laisser être leur guide du royaume de l'enfer. avant son départ au Costa Rica, Nature Boy, en 2017, il commençait déjà à grossir un peu sa clientèle, si on peut dire. Il donnait des conférences à Atlanta, au New Jersey. Une des choses, un peu comme je vous disais, il prêchait que le soleil se manifeste sur Terre pour créer des femmes noires. Et il dit à ses adeptes de ne pas faire confiance à leur sens, suggère que tous les gens partagent une seule conscience et une seule entité globale. Donc, je vous annonce, Mathias, Charles et Émile, qu'on partage tous le même corps et la même conscience.
J'en étais sûr.
Phénomène assez surprenant, hein, les cultes sur Internet. Actuellement, Nature Boy, au moment où on se parle, il y a 55 835 fans de followers sur sa page personnelle Facebook. Parce que même sa page, son profil personnel, plutôt sa page, il n'y a même pas 2000 likes. Et lorsque ça est sorti dans les médias, il y a un an, il y en avait 17 000. Donc, toute cette médiatisation-là l'a quand même aidé lui-même dans son nombre de followers, oui. Presque triplé, je veux dire, en à peine un an. Donc, on voit que même l'impact des médias, parlez-en bien, parlez-en mal, pour lui, ça a dû faire écho sur certaines brebis égarées. Là.
Tout à fait.
Après, il faut aussi voir sur les nouvelles personnes qui le suivent sur Facebook, combien le suivent dans ses délires ou combien le suivent pour tout simplement se marrer en écoutant ses histoires. Mmh. Ça fait beaucoup penser à ce qui s'est passé avec un Français qui s'appelle Sylvain Durif, le Christ cosmique.
Ok. Voilà. J'aime son nom.
Déjà, on l'a rien que dans le nom. Ce monsieur-là n'était pas très très connu au début. Il faisait vraiment des vidéos sur Internet où il disait qu'il était, je crois, qu'il est en contact avec la Vierge Marie, qu'il était la réincarnation de Dieu et le Christ cosmique. Et en fait, beaucoup de gens se sont foutus de sa gueule et on a commencé à en parler, à faire certains articles sur lui. Des youtubeurs connus ont fait des vidéos sur ce mec. Et à partir de là, il a commencé à gagner en popularité. Aujourd'hui, il a un gros nombre d'abonnés. Ah oui. Et il y a beaucoup de gens qui suivent ses vidéos, quoi.
Ah, intéressant, je vais aller suivre.
On peut se demander combien de gens aussi se sont pas trompés. Il s'appelait vraiment le Nature Boy?
Oui, The Nature Boy, c'est des Immortal Nature Boy sur Facebook. Mais en fait, il utilise son vrai prénom, c'est vrai, sur son profil, pardonnez-moi. Ah. C'est son username, si vous voulez, dans l'adresse là, facebook.com/ c'est Immortal Nature Boy, mais son vrai nom, c'est Eligio Bishop. Il a vraiment utilisé son vrai profil parce que d'une manière stratégique, tu as plus de portée organique sur Facebook quand tu fais ça. Donc, c'est pas une mauvaise stratégie pour ces brebis égarées. Mais pour répondre un peu à ce que vous disiez tantôt, je suis allé lire, j'en ai lu beaucoup, là, les commentaires des gens. Je vous dirais que, comment dire, il y en a beaucoup dans ce que je vois, disons qu'ils sont dans la même utopie que lui. Sont vrai même des gens qui lui conseillent, parce que je sais pas trop, mais il y avait des trucs, il y avait une des femmes qui était enceinte, puis il avait peur pour l'accouchement, puis des gens leur demandaient de « Ah, va voir sur YouTube, là, on explique comment accoucher, là, c'est pas compliqué. » J'étais « Mon Dieu! » C'est tout de même assez étrange. Je reviens dans le fil de mon histoire. On retourne au 20 mars, là, c'est deux jours après le Facebook Live de notre amie Sunray, Kyla. Nature Boy a accepté de faire une entrevue vidéo aux journalistes via l'application WhatsApp qui appartient à Facebook, justement à un journaliste de la CBC News. L'entrevue commence, il y a un beau sourire éclatant, il est assis dans son fameux bus, encore avec trois hommes entassés sur la banquette. C'est un peu comme les trucs de hip-hop, là. Souvent les entrevues avec les rappers sont toujours entourées de plein de monde. Au départ, il veut tout de suite qu'on l'appelle, il veut pas qu'on l'appelle Eligio Bishop, il veut absolument qu'on l'appelle Nature Boy. Il est interrogé sur Kyla, il assure qu'elle est en sécurité au Costa Rica, qu'elle peut partir de son plein gré. Lui-même, il lui a fortement suggéré de prendre contact avec sa famille et la police parce qu'il voulait pas de problème, il veut pas de problème. Par contre, plus l'entrevue avance, parce que veut pas, le journaliste fait son travail de journaliste, il pose des questions et son attitude, elle change. Il devient constamment frustré parce qu'il lui rappelle ses antécédents judiciaires. Il lui demande aussi son nombre de fidèles qui est sous lui. Puis lui dit « Moi, je vous demande-tu combien de personnes sont dans votre famille? C'est pas pertinent. Combien de personnes sont dans votre famille? Ça n'a juste pas rapport avec cela. Passons à quelque chose de plus important. » Lorsqu'on lui a demandé son opinion sur la définition d'un culte, parce qu'il s'en cache pas que c'est un culte, lui, il l'a contesté. Il dit « Je suis un culte, mais le Canada, les États-Unis et la CBC sont aussi des sectes. »
OK.
On voit que c'est cohérent. Selon Bishop, son groupe vit légalement dans le pays, n'a pas l'intention de violer les lois sur l'immigration.
Par contre, Kyla est finalement revenue.
Oui, 2-3 jours plus tard, après le fameux post Facebook, et dans le fond, le lendemain de l'interview avec le journaliste, elle a décidé de revenir. Et bon, Nature Boy ont propulsé le tout sur Facebook pendant une vidéo live de 50 minutes. Elle a expliqué que finalement, elle décide de partir du Costa Rica pour ne pas nuire à l'image de Nature Boy et à sa nouvelle famille, qu'elle est venue ici de plein gré parce qu'elle sentait au fond de son cœur que c'était vraiment eux, sa famille. Et elle dit qu'elle veut, elle va retourner dans son patelin, mais qu'elle n'appartient plus vraiment à ça, puis qu'elle appartient au tropique, selon elle. Elle ne va pas nécessairement retourner dans la sec de Nature Boy, mais qu'elle veut faire un peu son propre chemin. Et justement, sur Facebook, ils ont posté une photo ensemble à l'époque de Nature Boy et de Kyla à l'aéroport en direction de San Jose, aux États-Unis, où est-ce que la famille de Kyla est allée la récupérer pour se rendre au Canada.
On voit un peu un malaise là, dans ce selfie-là.
Ah, vraiment, hein? On le voit dans le regard. Vous le voyez pas, mais c'est... Tout ça a été forcé, puis il a vraiment pas aimé l'attention médiatique. Et à partir de ce moment-là, il annonçait sur tous ses réseaux qu'il n'y avait aucun nouveau membre qui était le bienvenu dans sa secte. Finalement, il a été arrêté et extradié du Costa Rica aux États-Unis le 14 octobre 2017. Ça faisait belle lurette, en fait plusieurs mois que son visa avait été échoué. L'arrestation a été assez robuste. On entend les fans crier autour de lui. Là, c'est assez incroyable. Tout ça, finalement, il est extradé aux États-Unis. Je dois vous avouer qu'actuellement, je sais qu'il est de retour depuis 2018. Il est sorti de prison, puis il est retourné à quelque part où il fait chaud. Sur ses dernières vidéos, on le voit, mais j'ai aucun endroit que j'ai trouvé où ce qu'il mentionnait exactement sa position. J'ai l'impression peut-être qu'il garde le mystère...
Oui, il y a tout avantage.
C'est ça, pour pas que cette histoire-là revienne le hanter, si on veut. Donc, mais Kyla a été interrogée il y a à peine 2 semaines qu'on enregistre actuellement. Elle dit qu'elle le suit encore sur les réseaux sociaux, qu'elle adhère toujours à son message, mais qu'elle n'a plus de contact direct avec Nature Boy. Donc, voilà.
Peut-être qu'elle le rejoindra aussi dans la nouvelle secte qu'il a l'air d'être en train de monter quelque part ailleurs, là où il fait chaud.
Oui, effectivement. Oui.
C'est quand même assez particulier.
Oh oui, c'est assez particulier. Puis sincèrement, si le sujet vous intéresse, il y a un autre Canadien qui s'est sorti de cet enfer-là il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle Alex Raposo, qui a vécu 3 semaines, lui, dans la secte, qui s'en est sorti, que lui-même a été arrêté lorsqu'il y a eu un peu l'extradition. Il explique son parcours. La CBC a fait plusieurs reportages sur le dossier. Je vous invite à aller les consulter sur le web si ça vous intéresse.
Oui, merci. Écoute, du coup, maintenant que... Je ne sais pas si on classe réellement l'affaire, étant donné qu'il est sûrement en train de monter une autre secte quelque part.
Ah, il est toujours très actif. Hein. Moi, j'ai écouté son dernier Facebook Live il y a 2 jours. Et c'était assez fascinant. Donc, il est toujours là. À 200, il y avait quand même près de 3000 vues, 10 partages. Il nous expliquait encore tout son processus. Donc, il est toujours très actif. Il n'y a rien qui l'arrête.
C'est un peu le start-upper de la secte, en fait.
Oui, c'est
exactement ça. Eh bien, on gardera un œil attentif aux nouveaux agissements de Nature Boy sur les internets.
Soyez vigilants.
Cette session de travail du Bureau des Mystères est désormais terminée. Merci à vous de l'avoir écouté. Et surtout, merci à nos copains de Distorsion d'y avoir participé.
Merci beaucoup, messieurs. Tout le plaisir était pour nous et ce sera un plaisir de refaire ça très bientôt.
Oui, monsieur. Merci à vous, cousin français.
On a beaucoup aimé du coup faire cette émission avec vous et je pense que nos auditeurs vont également aimer vous entendre. Du coup, on peut vous retrouver où?
On est partout, chers amis, en fait, au distorsionpodcast.com. Vous pouvez nous trouver au facebook.com/distorsionpodcast. On a un groupe de discussion aussi sur Facebook, si ça vous dit de discuter de sujets qui sont couverts chez nous, sur Distorsion, mais aussi chez le Bureau des Mystères, parce que Mathias est membre, je le sais, je ne vous dévoile pas de secret ici. Donc, vous pouvez nous retrouver là-dessus, on est très facile. Instagram aussi, Distorsion Podcast, et Twitter sur Distorsion Pod.
Je crois que Mathias était un peu undercover. Vous l'avez démasqué.
Absolument. Non, pas. Je réponds régulièrement aux personnes qui...
Oui, exactement, c'est ça.
En ce qui nous concerne, vous pouvez nous retrouver sur rivieraferraille.com, évidemment, et les réseaux sociaux, sur Twitter, @BDMlepodcast, et sur notre page Facebook Charles et Mathias.
Et nous, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, écoutez Distorsion.